En ce 22 janvier, à Rencontre spirituelle, nous aurions pu parler au moins d'un des saints Vincent, puisqu'il y en a trois aujourd'hui. Oui, un Vincent qui était diacre à Saragosse, en Espagne, était martyrisé à Valence, vers l'an 304. Il y a aussi Vincent et Oron, se martyrent à Gérone, vers la même année. Puis, il y a ce fameux saint Vincent Palotte, qui est fondateur de la Société de l'Apostolat catholique, qui est mort en 1850, fondateur des Palottins, comme on les appelle. C'est toutes des saints qui pourraient être extrêmement intéressants. J'en profite pour souhaiter une bonne fête au Vincent. Mais c'est aussi la fête de Saint Anastase, plutôt, qui est un martyr en Assyrie, au 7e siècle. Blésile, aussi une dame romaine, sœur de Saint Eustochium, imaginez, en 384 qu'elle est morte. Et puis, il y a l'évêque de Ramsbury, qui est mort en 1045, Brit Walt. Puis un Dominique, Saint Dominique Bénédictin Abbé, probablement le patron de l'abbaye Saint-Dominique de Silos, dont vous avez entendu souvent le chant grégorien, ce fameux disque, ou les deux disques, les deux cassettes, là, des bénédictins de Silos qui ont fait le tour du monde, ça a lancé le grégorien il y a une couple d'années. C'est d'autre part aussi l'anniversaire du décès de Gaétane Garraud. J'aimais beaucoup, beaucoup Gaétane Garraud. C'est une perte pour le Québec. Elle est décédée il y a 11 ans, en 1985. Juste un mot à son sujet, j'en parlerai longuement l'an prochain, j'espère. Elle était née en 1925, donc à Saint-Polycarpe. Puis, dans la région de Valleyfield, elle était la 11e enfant d'une famille de 12. Hein, puis elle a étudié chez les Sœurs de Sainte-Anne. Et c'est complètement les Sœurs de Sainte-Anne qui l'ont formée. Et ils l'ont bien formée parce qu'elle était une femme extraordinairement généreuse et, à mon avis, une sainte. Je l'avais d'ailleurs invitée à Rencontre à la télévision de Radio-Canada et ça avait fait sensation. Elle était déjà atteinte d'un cancer. Elle a eu le cancer pendant à peu près 13 ans. Et avec Angèle Patenaude, en 1951, elle a fondé un nouveau groupe qui s'apparente aux instituts séculiers, qui était son groupe d'appartenance pour toute sa vie. C'était les auxiliaires rurales catholiques qui sont devenus le groupe Monde et Espérance. Elle est devenue psychologue, elle a travaillé avec cette femme très, très, très illustre, que presque tout le monde connaît, Janine Guindon, qui est directrice de l'Institut de formation et de rééducation à Montréal. Elle a été là de Gaétane Garraud, de 78 à 85. Alors, je vous en dis pas plus, je vous dis simplement que c'était une femme d'espérance, une femme grandiose. Et quand elle a passé à Rencontre à la télévision, Claude Ryan en avait consacré tout un éditorial dans Le Devoir, alors qu'il était directeur du Devoir. D'autre part, je vous signale en passant que samedi, c'était l'anniversaire du décès d'un grand juif, Hermann Cohn, qui est devenu le père Augustin-Marie du Très-Saint-Sacrement, un carme, dont Jean-Marie Beaurain, un bénédictin de Fongombeau, m'avait remis à Fongombeau la vie qu'il a écrite sur cet homme exceptionnel qui a fondé l'adoration nocturne, ce juif. C'est un livre de 400 pages, passionnant, hein? Flèche de feu. C'est la vie du père Augustin-Marie, du Très-Saint-Sacrement, de son vrai nom, Hermann Cohn, qui est né en 1821, il est mort tout jeune, en 1871, à 50 ans. C'était un jeune pianiste dans son jeune âge, mais beaucoup de talent. Un juif remarquable, auquel on doit beaucoup dans l'Église catholique. Je vous ai parlé vendredi de Robert Ely en vous lisant un texte sur l'érotisme qui a frappé beaucoup de gens. Je vous le lis avant de commencer la vie, aujourd'hui, de la bienheureuse Laura. Cette bienheureuse Laura, qui est morte plus jeune, n'est-ce pas, à 12 ans au début de ce siècle, en Amérique du Sud. Une bienheureuse qui a été canonisée tout récemment par le pape Jean-Paul II. Vous direz 12 ans, c'est pas possible, vous verrez. Mais comme sa vie tourne un peu autour du problème de l'érotisme, je vous relis un passage de ce texte de Robert Ely, notre grand écrivain catholique québécois, qui disait regarder défiler dans la ville ces visages durs et veuls, les lamentables bourreaux et victimes des froides divagations de Sade, qui ont perdu jusqu'au souvenir de l'amour et même de l'humble don de l'accueil fraternel et de l'abandon à la beauté du monde. Oui. Il a bien raison, parce que vous allez voir, la mère de notre petite a cru bon de vivre avec un homme de ce genre. Elle s'appelait sa mère Mercedes. Elle était née à Santiago, du Chili. Et elle avait épousé José Domingo Vicuña. Vicuña, c'est finalement le nom de notre bienheureuse, Laura Vicuña. Ça s'appelle V-I-C-U-N-A. Mais au-dessus du N, il y a ce petit signe espagnol qui transforme le son du N, n'est-ce pas? Donc, j'oublie le nom de ce signe. Je le savais, mais je l'ai oublié. Son père, donc, était un officier de famille noble. Elle était vive, elle était belle, délicate. Elle s'appelait Mercedes del Pino. Et elle semblait être l'épouse idéale. Mais elle n'était pas d'origine noble. Cela avait suffi pour dresser une espèce de barrière entre elle et les Vicuña, qui avaient un peu de prétention. Le 5 avril 1891, donc, un peu plus de 100 ans, est née leur premier enfant, Laura. Celle dont je vais vous parler durant presque toute l'heure aujourd'hui, parce que c'est très, très intéressant. Oh, certains pourront me dire que c'est un peu quétaine. Ça ne l'est pas du tout, vous verrez. C'est magnifique ce que la grâce de Dieu peut faire dans le cœur d'un enfant. Cet événement de la naissance de Laura, qui aurait pu être une espèce de point de départ d'une grande joie, mais c'était le début d'un chemin extrêmement douloureux pour la mère. Le Chili vivait alors des jours très dramatiques, et en janvier 1891, je vous ai bien dit qu'elle était née en 1891, donc quelques mois avant la naissance de Laura, avait éclaté une guerre civile dans le but de faire tomber le président Balmaceda et les opposants s'étaient emparés du pouvoir et les persécutions s'étaient abattues sur les partisans et parmi eux sur toute la famille Vicuña. Alors, peu après la naissance de Laura, mais son père, José Domingo Vicuña, dut s'enfuir avec toute sa famille et la route de l'exil a été très, très dure. Elle les a conduits vers le sud jusqu'au village de Temuco, à 500 kilomètres de Santiago, dans une région de climat rude, où la vie est devenue vraiment très angoissante. Et en 1893, donc 2 ans plus tard, une autre enfant est née, Amanda, leur deuxième fille. Ça semblait apporter un peu de joie au foyer des Vicuña, mais, hélas, quelques mois plus tard, le père, José Domingo, est mort. Alors, cette pauvre femme est restée avec 2 bébés, pour ainsi dire. Elle a réalisé dans quelle situation épouvantable elle se trouvait. Est-ce qu'elle devait retourner à Santiago maintenant que son mari était mort, puisque, au fond, c'est lui surtout qui était poursuivi par les autorités à cause de son opposition à une révolution? Alors, il fallait pas y penser, finalement. Elle avait trop peur. Et que faire? Ben, à Temuco, dans ce petit village, elle avait peu de chance de s'en sortir. Alors, après 6 années passées dans ce village, elle avait passé quand même 6 ans là, elle a pris une décision vraiment courageuse. Elle a projeté de traverser les Andes, évidemment. C'était pas facile. Et là, de s'installer en Argentine. Une terre pleine de promesses. Pourtant, des migrants chiliens, d'ailleurs, à cette époque. Et là, elle rêvait de reconstruire sa vie, un nouveau foyer avec ses filles. Elle s'est rendue à Neuquén. C'était pas le paradis. Une terre nouvelle, arrachée à la sauvagerie. C'était le repère d'aventuriers, de trafiquants de toutes sortes. Alors la mère, Mercedes, a essayé de s'y faire un trou. Et pour elle et ses 2 enfants, et d'abord à Neuquén, puis à Las Lajas, à Chapelco, puis enfin à Junín, ou Junín, J-U-N-I-N, de los Andes, des Andes. Et à force d'aller ainsi sans défense, seule, te menacée de toutes parts, elle a sentimenté en elle le désespoir. Alors elle cherchait un soutien à tout prix. Un jour, elle a rencontré un bonhomme épouvantable, Manuel Mohora. C'est un gaucho, un mauvais sujet. Il avait une quarantaine d'années. Oh, il avait l'air fier. Il portait des vêtements recherchés, il avait de l'argent. Il était armé d'un long poignard. Il en imposait à tout le monde quand il passait à cheval. On voit ça dans des films. Alors, orgueilleux et méprisant, il était sans scrupules. Les Indiens, les serviteurs, les gardiens de troupeaux sont tous traités par lui comme des esclaves. Il joue du fouet, sans distinction, sur les hommes, sur les bêtes. Mais il sait aussi être très galant. Il sait fasciner Mercedes, qui malheureusement s'accroche à lui comme une bouée de sauvetage. Elle est tellement égarée, la pauvre, et elle le suit. Alors ceux qui la voient arriver au domaine, souriante aux côtés de Mohora, parce qu'il avait un domaine, ce Mohora, Manuel Mohora, mais ils ont pitié de cette pauvre femme, cette jeune femme, ses deux enfants. Mercedes a appris qu'une école vient de s'ouvrir, un collège qui est dirigé par les sœurs salésiennes de Don Bosco. Salésiennes, ça vient du nom de Saint-François de Sales, qu'on va célébrer mercredi. Je vous raconterai la vie de Saint-François de Sales mercredi. Alors les sœurs salésiennes, c'est comme ça que Don Bosco avait décidé de les appeler au siècle dernier, parce qu'il avait un grand respect pour la pensée, la spiritualité de Saint-François de Sales. Il y a les salésiens et les salésiennes, hein? Alors, la mère souhaite y mettre ses filles pour qu'elles y reçoivent à la fois l'instruction et une bonne éducation. Comme je vous ai dit tout à l'heure, Gaétane Garreau a reçu une excellente éducation chez les sœurs de Sainte-Anne, qui avait formé d'ailleurs ma mère et à peu près toutes les femmes de ma famille. Et alors, mes deux enfants ne restent donc que quelques jours dans le domaine, quelques jours seulement, et pourtant Laura a déjà pressenti le danger. Laura, elle n'a que 9 ans, mais elle est éveillée. Et les épreuves de son enfance l'ont mûrie très précocement. Elle sent que quelque chose ne va pas dans la situation de sa mère. Oh là là, quel problème, hein? Et alors, elle se rend heureusement dans ce collège des Sœurs de Saint-Anne. C'est un pauvre endroit. Il y a des photos de ça. C'est pas le couvent de la Chine. C'est un pauvre petit couvent. Et la sœur Angèle, sœur salésienne, la jeune directrice de l'école, regarde les deux enfants, Laura et Amanda, les accueille avec le sourire. Elle dit, vous êtes chez vous ici. C'est la maison de la Sainte Vierge. Et à partir de maintenant, c'est aussi votre maison. Alors, la petite Amanda écarquille les yeux. Sa maison? Mais où sont les immenses prairies, les chevaux, les animaux, la richesse du domaine de sa mère, hein? Ici, tu t'es si pauvre, alors elle éclate en sanglots, elle s'agrippe à Laura, mais celle-ci n'a que 3 ans de plus. Mais elle sait déjà ce que c'est que la souffrance. Elle console sa petite sœur. Elle sait comment aider et prendre soin de sa petite sœur. Et elle sera extraordinaire, elle développera un grand amour. Alors, les premiers jours au collège marquent le début d'une extraordinaire découverte. Hein, la maison est très pauvre, je vous l'ai dit. On y respire pendant un air de bonté qui vient de l'Évangile. Hein. On y vit dans une atmosphère de joie chez ces sœurs-là. Il y a un amour tout simple pour Dieu qui s'exprime, puis pour les autres. C'est l'esprit de famille, tel qu'on le vivait à Turin avec Don Bosco, dont la fête, c'est bientôt, le 31 janvier. On va célébrer ça la semaine prochaine. Alors, les premières sœurs missionnaires salésiennes ont apporté par-delà les océans cet idéal jusqu'au sommet de ces montagnes des Andes, jusqu'à ce pays perdu près de la frontière. Et Laura le perçoit très vite dans le sourire des sœurs, un sourire qui l'attire, qui l'intrigue. Sa mère sourit aussi, mais c'est pas le même sourire. Alors d'où cela vient-il, ce sourire des sœurs? Elle voudrait savoir sourire comme sa maîtresse sœur Angèle, et en écoutant, en observant, en vivant dans cette ambiance, mais Laura découvre peu à peu le secret de cette paix. Qu'est-ce qu'elle découvre? Elle découvre l'amour. L'amour vrai. Elle découvre que l'amour, c'est Dieu. Oui, l'amour, c'est Dieu. Dieu est amour, dit Saint Jean. Et que Dieu est en elle, elle découvre ça aussi. Et cela la remplit de joie et la rend heureuse. Alors sa mère ne le lui avait pas dit. Mais maintenant, elle se sent aimée, protégée par cet amour infini et fort de Dieu, et elle découvre que Dieu est présent dans toutes ses compagnes. Tout ce que vous aurez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'aurez fait. Et créé par amour, appelé par amour, c'est donc le but de notre vie. C'est décidé, elle aussi, elle va vivre comme ça. Alors un matin, sœur Angèle parle du mariage, ce sacrement par lequel Dieu appelle l'homme et la femme à collaborer à son plan de créateur. Elle sait qu'il n'est pas trop tôt pour parler de cela à son jeune auditoire, évidemment, dans les régions. Comme ça, les filles se marient très jeunes. D'ailleurs, sa petite sœur de 3 ans plus jeune, Amanda, va se marier, elle, un peu plus tard, à 12 ans. Laura écoute, elle est attentive. Tout à coup, elle croit comprendre. La situation de sa maman lui paraît devant elle dans toute sa vérité. Elle se rend compte que l'installation là, dans le domaine, tout ce bien-être inattendu, tout l'intérêt que porte à sa mère ce Manuel Mora. Alors la petite Laura pâlit. Elle s'accroche au banc, elle chancelle. Elle n'entend plus ses compagnes. Ce matin, elle était encore un enfant et maintenant, c'est fini, elle est devenue une femme. Oh, elle condamne pas sa mère, mais elle cherche à changer la vie de sa mère. Elle voudrait sauver sa mère. Alors Amanda et elle, donc, si elles sont tout pour leur mère, comment faire pour faire pour leur mère tout ce qu'elles doivent faire? Si leur mère acceptait d'aller dans ce domaine, pour se sentir moins seule, se sentir protégée, l'a fait pour elle, les deux petites. Alors, elle finit par rendre les armes à Laura. Mais elle va les reprendre. Elle luttera pour redonner la vie à sa mère, pour lui faire connaître l'amour véritable. Il n'y a pas d'amour plus grand que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et toute la vie de cette petite Laura est basée là-dessus, sur ce drame étrange qui se vit dans le christianisme. On le voit, mettons, dans les souffrances de Marthe Robin. Pourquoi tant de souffrances? Dieu pourtant n'aime pas les souffrances, c'est l'amour qui crie au creux des souffrances, qui console le cœur de Dieu, qui plaît à Dieu. C'est un étrange mystère au fond de notre religion. Alors je lutterai, Seigneur, même au prix de ma vie. Cela en vaut la peine, dit Laura. Et Laura se met à prier avec intensité, à offrir tant de petits gestes d'amour pour redonner la vie à celle qu'elle aime plus que tout, plus que tout. Et en janvier 1901, à Junin, c'est l'été, la fin de l'année scolaire, c'est aussi, avec le début des vacances, le retour au domaine, à Quilcué, parce qu'il s'appelle comme ça le domaine. Laura ne voudrait pas y retourner. Elle a une frisson d'angoisse, elle la secoue. Mais elle se souvient alors que Dieu est tout proche, alors elle l'appelle au secours. Mercedes vient chercher ses filles pour les vacances, toute fière des résultats de Laura à l'école. Au fait, dit-elle d'une voix hésitante, à la ferme, vous pourrez prier si vous le voulez. Faites attention que Mora ne vous voit pas. Monsieur Mora n'aime pas ça. Quand elles arrivent au domaine, les gardiens du troupeau, les bergers et leur famille entourent Laura et l'admirent, elle est déjà jolie. Cet été-là, personne ne l'ennuiera. Mais elle sent partout une atmosphère louche, trouble, qui la met mal à l'aise. Enfin, voici une nouvelle année scolaire et le retour à Junin au collège. Elle y va comme on va à une fête. Elle est contente. Elle aime autant les récréations, les jeux, la vie avec ses compagnes. Alors elle retrouve celle de l'année passée. Elle est heureuse. Attentive à toutes, elle aide celles qui ont le plus de difficultés. Elle y retrouve le prêtre qui la guide. Elle a découvert dans le sacrement de la réconciliation le chemin qui lui semble pour elle le meilleur pour apprendre à se connaître et aussi pour confier ses projets au prêtre, pour lui demander conseil, pour s'expliquer, pour poser des questions. Au fond, les gens paient 50 ou 100 dollars pour avoir des psychologues ou des psychiatres. Que ne voit-il un bon prêtre? Que ne confesse-t-il ses fautes? Dans bien des cas, ça pourrait être la solution, dans bien des cas, pas toujours, hein? Alors la petite Amanda, elle se moque un peu de la régularité avec laquelle sa grande sœur va se confesser. Mais Laura répond tranquillement, « Après chaque confession, ah, je me sens plus forte et tout est plus facile. » Car sous cet aspect de douceur, Laura a un caractère bien décidé. Hein? Là, une nouvelle sœur, une jeune enseignante, sœur Agnès Marie Rodriguez, vient d'arriver de Colombie. Sa manière d'être et de vivre fascine Laura. Alors cette sœur veut que ses élèves vivent une merveilleuse jeunesse et avec elle les jeunes peuvent s'élancer et avancer très vite. Et alors Laura profite d'autant plus de sa présence qu'elle se prépare à faire sa première communion. C'est exceptionnel de la faire à 10 ans, mais Laura est prête. Alors elle fait donc sa première communion dans la joie. Mais elle en pleure. Et on lui dit, pourquoi pleures-tu, Laura? N'est pas contente, elle dit, ah oui. Mais elle essuie ses larmes, elle pense à sa maman. Et en ce 2 juin 1901, les chants retentissent dans la petite chapelle, Laura, à genoux, est absorbée. Elle dialogue déjà avec Jésus, elle lui parle de tout. Elle a appris à prier vraiment, à parler à Jésus, à quelqu'un. Pas rester des formules. Et elle lui offre son cœur et tout son être. Elle prend des résolutions héroïques. Elle s'engage à faire de toute sa vie un don d'amour, même si c'est dur. Sa mère est venue pour la cérémonie. Elle a porté la robe blanche qu'elle a elle-même cousue pour la première communion. Elle apporte aussi beaucoup d'autres cadeaux. Et Laura espère jusqu'au bout qu'elle lui fera le cadeau le plus beau, mais sa maman ne s'avance pas. Pour recevoir l'Eucharistie, elle ne peut pas. Évidemment, elle est la maîtresse de cet homme. Alors, toute gênée, elle mesure la distance qui la sépare de son aîné. Cette mère est gênée devant la pureté de sa fille. Elle découvre en sa petite Laura une maturité nouvelle. Elle craint même la profondeur de son regard. Qu'est-ce qui se cache dans le regard de Laura? Un reproche? Une demande? Ah, souvent, cette mère merveilleuse, Mercedes, qui est bon cœur au fond, elle vient voir ses filles, hein? Elle se demande quoi faire. Alors elle vient au collège, les combles de cadeaux, de vêtements, de parfums, de confuseries. Mais la petite Amanda s'en empare très vite et en profite, et Laura, elle, remercie, mais garde toujours cette ombre dans le regard. C'est un autre cadeau qu'elle désire. Elle veut la transformation de sa mère. Le 8 décembre, en la fête de l'Immaculée Conception, quelques filles demandent à faire partie du groupe des filles de Marie. C'est un choix par lequel elle s'engage à vivre, comme Marie, dans une attitude de bonté, de pureté. Alors Laura se prépare avec son groupe d'amis. Elle est très heureuse de porter un ruban bleu avec la médaille de la Vierge. Et voici que se termine la deuxième année passée au collège. La mère, Mercedes, regarde sa fille avec étonnement. Elle est devenue grande et belle, avec ses joues colorées, ses yeux foncés, ses cheveux ondulés, son attitude réservée. Elle a des fossettes. C'est une belle jeune fille. Laura a le pressentiment de ce qui l'attend à qui huit où habite sa mère. Elle intensifie sa prière. Elle serre sur son cœur la médaille de la Sainte Vierge. Elle se demande ce qui va lui arriver. Car au repère de cet homme qu'elle appelle un faucon, on l'attend. Cet homme tourne, cherchant le moment opportun pour fondre sur sa proie. Et Laura sent le danger qui plane dans l'air, et Mercedes le sait. Elle le sent, elle le voit. Emmanuel Mora, lui, est arrogant, grossier, c'est un patron despotique, hein, a fini les rêves. Mercedes avait cru pouvoir s'appuyer sur lui pour en tirer quelques profits, mais aujourd'hui, la vie avec lui s'est transformée en esclavage. Et quand, de la véranda, où elle reste durant la journée, Laura voit le patron arriver et attacher son cheval au poteau, près de l'entrée de la maison, elle s'éclipse. Et alors, Claudia Martinez, une habitante de Junin, qui a reçu les confidences de Mercedes, elle dit que Manuel Mora a chassé Mercedes et exigea de rester seule avec la jeune fille, et celle-ci, cependant, est parvenue à lui résister et a échappé à ses assauts. Mais Mercedes, la mère, le cœur en transe, observe tout par la fenêtre, et l'homme vaincu médite un autre coup. Il ne peut accepter qu'une enfant de 11 ans lui résiste. Nous parlons de la bienheureuse Laura Vicuña, une petite fille de 12 ans. Oh, il y a des gens qui me diront, mais pas une autre Maria Goretti. Mais que fait-on des funérailles qui viennent d'avoir lieu il y a quelques jours de ce petit garçon Stéphane, qui a refusé, au fond, des avances d'un homme qui l'a tiré à bout portant, semble-t-il? Que fait-on du scandale, des cris devant tout ce qui se passe d'adultes avec nos enfants? On a bien raison. Nos enfants ne sont pas n'importe quoi. Et alors, c'est la même chose pour une enfant de 12 ans. Oui, quelques jours plus tard, a lieu la fête du marquage des animaux sur le domaine de M. Mora. Les animaux qui sont nés dans l'année à la fin fond de... Des immenses étendues arrivent de côté des troupeaux, puis on commence par tondre les moutons On les marque au fer rouge. Le dernier jour de la fête s'achève. Avec des gardiens de troupeau, des serviteurs, leurs familles et des amis, du patron, hein. Les propriétaires des fermes voisines ont été invités. On boit, on joue, on chante. Et en attendant le grand bal nocturne, eh bien, les femmes en vêtements de fête, un châle sur les épaules, vont, viennent, portent des gâteaux, des boissons, et lui, Emmanuel Mora, mais il a choisi cette soirée pour la revanche, il veut se venger. Il essaie d'envoûter la petite Laura. Il la regarde. Il lui fait des clins d'œil. Et celle-ci, elle voit les yeux perfides qui sont fixés sur elle. Elle demande l'aide de la Sainte Vierge, de Marie. Elle prie. Les danses vont commencer. Alors le patron, Manuel Mora, s'apprête à ouvrir la fête. En faisant les premiers pas du bal, la petite Laura le voit s'avancer vers elle. La lutte commence et à son invitation, elle répond par un non, fier et décidé. Il n'y a rien de quétaine là-dedans. Même si on fait des émissions actuellement pour inviter nos jeunes, plus jeune âge, à perdre leur virginité, j'ai vu ça à 7h samedi à Radio-Canada, à la télévision. Il y en avait une autre hier sur un autre poste, en français encore, dans le même style, au début de la soirée. Emmanuel Mora, lui, il est fou de rage devant le non. Il insiste, il se fait charmeur. La petite fille, Laura, répond au nouveau non, et alors les invités observent, ils savent pas quoi faire. L'homme devient insolent, mais il est chez lui, il est solide comme le rocher, et Laura refuse encore, alors... Mercedes, la maman, se tord les mains d'angoisse. Qu'est-ce qui va arriver? Alors le patron passe des paroles aux actes. Ah oui, elle ne veut pas danser, la sainte n'y touche. Alors il la saisit par le bras et la jette violemment dehors avec les chiens. La porte se referme. Il avance rouge de colère et d'humiliation vers Mercedes, la mère. Il la couvre d'injures. Il lui ordonne d'obliger sa fille à rentrer, à s'excuser, puis à danser. Mercedes sort. Que dit-elle à sa fille? Ma peur d'un malheur plus grand la pousse à lui demander de rentrer. Oh, qu'est-ce qu'un bal au fond, hein? Et pourtant, elle sait bien comment finissent ces genres de bals. Alors Laura sait très bien ce que veut le Manuel Mora. Elle lit dans les yeux de sa mère la souffrance, la servitude de l'esclavage. Mercedes avait cru trouver en Manuel Mora un protecteur. Elle y a trouvé un tyran. Combien de femmes? C'est arrivé à combien de femmes, là, qui m'écoutent, hein? L'angoisse de sa mère la bouleverse, mais elle ne peut accepter et elle dit non à sa mère. Alors, dans le noir, elle cherche un refuge près des arbres et dans la maison, maintenant, on danse. Manuel Mora, lui, ne danse pas. Il a l'air farouche. Il regarde l'entrée. Et tout à coup, la porte s'ouvre et Mercedes rentre seule. Alors là, l'homme lance un juron. Elle le paiera. Il la saisit par le poignet, il la traîne dehors. Les danses s'arrêtent et Mercedes est liée à un poteau. Personne, pas même les frères du patron, n'osent intervenir. Manuel Mora fouette Mercedes jusqu'au sang. Les amis enfourchent leur cheval et s'en vont, ils ont peur. Laura, la petite, souffre terriblement, elle pleure. Mais c'est pas en cédant qu'elle va sauver sa mère, elle le sait. Cette nuit atroce sera suivie de jours pénibles. Elle devra rester à la ferme, travailler comme domestique, mais sa mère se révolte. Elle crie à Manuel Mora, « Sont à moi! Je ne suis pas ici une esclave! » Et l'homme hurle, lui, « Tu es mon esclave ou tu es morte? Et quant à tes filles, on verra bien. » Il croit, et même il est sûr, qu'avec le temps, Laura abandonnera son attitude, qui est le fruit de cette espèce d'éducation catholique bigote qui est donnée par les sœurs. Ben oui, on veut abolir ici nos écoles catholiques, hein? C'est une idiotie. Des sœurs, des prêtres, des frères qui enseignent à nos enfants, quelle déformation abominable. Mais non, faut leur enseigner n'importe quoi, à utiliser des condoms à 12 ans. Mais oui, c'est ça qu'il faut faire. Hein. Mais Manuel Laura ne connaît pas Laura. Manuel Mora ne connaît pas Laura. Alors, petite Laura ne veut pas rester ici, elle veut retourner au collège. Et elle sait que les sœurs la prendront quand même. Alors, en effet, Laura est prise gratuitement et en février 1902, on la retrouve au collège. Elle n'est restée que quelques semaines dans cette espèce de repère du faucon. Elle en repart victorieuse, mais elle a mesuré tout l'abîme que creuse le mal. Et son âme en est profondément blessée car elle voit le mal dans lequel est plongée sa mère. Son amie, Merceditas Vera, s'inquiète. Comme tu es pâle, Laura. Comment sont passées tes vacances? Elles n'ont pas très calme. Ici, quoi de neuf? Alors, Merceditas, Vera. Et Laura sont de grandes amies. Merceditas a 14 ans et 3 ans de plus que Laura, mais cette dernière a une telle maturité qu'elles s'entendent très bien toutes les deux. Ce sont de bonnes amies. Elles se sont découvertes le même idéal. Le père de Merceditas apporte souvent son aide au collège, lui. Un bon père. Sa sœur a décidé de donner toute sa vie au Seigneur, d'ailleurs, pour s'occuper des jeunes. Merceditas et Laura désirent, elles aussi, suivre le même chemin. Et quand une des sœurs salésiennes, leur enseignante, est morte, elles ont décidé de prendre sa place. Je le demanderai à papa le jour où Maria, ma grande sœur, deviendra novice. Papa est si bon. J'insisterai, tant qu'il finira bien, par accepter. Quelle différence d'éducation chez la Merceditas. Elle est heureuse dans son foyer. En ce soir du 1er avril 1902, Merceditas éclate de joie. En signe du premier pas qu'elle vient de faire vers le but poursuivi de devenir une sœur, elle a revêtu ce qu'on appelle une pèlerine, une espèce de petite mante, une sorte de petit châle noir, quoi. Et Laura aussi aurait tant désiré revêtir ce même vêtement. Mais elle sait que c'est pas possible pour elle en ce moment. Alors les voici seules. Et puis Merceditas lui offre son châle. C'est un bonheur pour cette petite fille de se revêtir de ce signe. Elle a besoin de signes. Mais elle a de la peine. Et Laura court en larmes au pied du tabernacle, au pied de Jésus, à la chapelle, lui demande la force de savoir partager sans jalousie la joie de son ami Merceditas. Mais les mots de Jésus au tabernacle lui reviennent à la mémoire. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Alors, elle songe au fait qu'elle n'a pas encore tout donné pour sa mère. Mon amour pour elle n'est pas complet si je ne suis pas prête à donner même ma vie pour son bonheur. Et c'est là une des choses difficiles à comprendre, hein? Elle en parle même à son confesseur, le père Crestanello, à qui elle a demandé avec simplicité et sagesse de guider sa jeune vie jusqu'au sommet. Oui, jusqu'au sommet. Alors, il lui dit, « As-tu bien réfléchi, Laura? Donner ta vie pour ta maman, c'est le plus grand acte d'amour. Mais c'est très dur, c'est très difficile. » Mais Laura n'hésite pas et le père Crestanello réfléchit. Elle a tout juste 11 ans. Et c'est ce qu'elle veut. Elle est capable d'un amour héroïque et dans l'humble chapelle du collège, le 13 avril 1902, Laura offre sa vie à Dieu pour sa maman. Difficile à saisir et à comprendre. L'année suivante, il fait froid. La pluie tombe. De la pluie. Le fleuve rugit menaçant. Un jour, il dévale avec furie sur la petite ville. Le collège n'est pas épargné. Les enfants se réfugient dans une maison plus élevée que les eaux. Et alors, la peur, froid, l'humidité, c'est épouvantable. Une piscine qui pénètre tous les membres, fait surtout sentir quand, après le retrait des eaux, on peut enfin retourner au collège. T'es envahi par la boue. D'un hiver qui n'en finit plus. Laura tombe malade. Elle devient chaque jour plus pâle. Ses forces s'en vont. Malgré les soins, elle dépérit. Elle sait qu'elle ne guérira pas. Mais les autres ne connaissent pas son secret. Mercedes est arrivée bien décidée pour prendre sa fille, Laura. Elle sait qu'elle n'aime pas le domaine où elle habite, mais en ce moment, ce qui compte, c'est sa santé. Oh, Laura ne se pose pas. Désormais, elle doit plus que jamais être proche de sa pauvre mère. En arrivant au domaine, elle se réfugie dans une réserve pleine de dignité. Bien que pâle et malade, elle exerce sur Manuel Mora un attrait qui est irrésistible pour ce vieux salaud. Et alors, la santé ne revient pas dans le domaine. Elle est toujours malade. La mère est de jour en jour plus inquiète. Elle profite d'un moment favorable pour dire au patron du domaine, « Eh bien, j'amène ma fille à Junin. Je louerai une petite maison. Pour quelques jours, je resterai avec elle. Et là-bas, il est plus facile d'avoir des médicaments et de faire venir un médecin. » Et bien que de mauvais gré, Emmanuel Mora accepte. La petite Amanda part avec sa mère et sa sœur. Elle restera au collège, tandis que la mère occupera de Laura dans un petit logement. La maladie, cependant, progresse inexorablement, et le visage de la petite Laura Vicuña devient toujours plus maigre et effilée. Mercedes l'observe avec angoisse. Même si elle n'ose regarder Laura dans les yeux, il y a toujours cette ombre que Mercedes se refuse de comprendre. Peut-être parce qu'elle se doute de la raison de tout ça. Et en janvier 1904, mais c'est le plein été au Chili. Tantôt baignée de sueur, tantôt glacée, la petite Laura respire avec difficulté, ne quitte plus la maison, passe des heures assise devant la fenêtre, soutenue par des coussins. Elle ne demande qu'à mourir en paix. Elle prie toujours plus intensément pour sa mère. Et pendant ce temps, Manuel Mora, lui, s'impatiente, il devient furieux. Furieux, il est furieux, vraiment, là. La petite Laura, il est échappé. Maintenant, à cause d'elle, ben, sa maîtresse, Mercedes, elle aussi a quitté Quilcué. Il doit réagir. Bon, je dis maîtresse dans ce temps-là, c'était des maîtresses. Aujourd'hui, ce sont des compagnes. M'excuse du vocabulaire ancien que j'utilise. Un après-midi, à l'improviste, les sabots d'un cheval retentissent dans la petite cour de la maisonnette. Et la petite malade lève les yeux. Mercedes arrive en courant. Manuel Mora a déjà sauté à terre. Il attache le cheval à l'arbre et il entre en maître. « Je veux passer la nuit ici. » Alors Mercedes est glacée de frayeur. Elle essaie, mais en vain, de le dissuader parce que y a rien à faire. Elle ne veut pas. Mais à un moment, elle va céder. Alors Laura, rassemblant ses forces qui lui restent, elle se lève puis elle sort. Manuel Mora, qui craint un esclandre public, se jette sur elle, foudrage, la saisit par le bras, la ramène à la maison et se met à la frapper sauvagement. La mère Mercedes s'élance vers elle pour la défendre. Elle veut défendre sa fille, mais c'est pire que tout. Il la dominera, oui, il la dominera, cette petite gamine stupide qui ne veut pas faire l'amour. Et Laura ne peut se défendre, mais ses yeux ne manifestent aucune peur. Là, il y a des gens qui accourent. Emmanuel Mora enfourche son cheval, il s'éloigne au galop. Une fois encore, malgré sa force brutale, il a été vaincu. Alors Laura vit ses derniers jours sur terre. La secousse provoquée par Manuel Mora a aggravé son état. Sa mère est désemparée, agitée. Elle paraît saisie d'une crainte mystérieuse quand elle se trouve près de sa fille, Laura. L'ombre dans les yeux de sa fille est toujours là. C'est persistant. Oh, c'est très douloureux. Mais Laura, cependant, ne veut pas s'en aller ainsi. Et quand elle sent que sa fin approche, elle appelle avec une grande, grande tendresse sa mère qu'elle aime tellement et elle lui dit « Maman ». Qu'y a-t-il, Laura? Viens, maman. Je vais te parler. Je ne guérirai pas, tu sais. Je vais bientôt mourir. C'est moi-même qui l'ai demandé à Jésus. Je lui ai offert ma vie pour toi, pour obtenir la grâce de ton retour vers lui. Je t'ai toujours tellement aimé, maman. Je m'en vais. Mais je ne pouvais avoir la joie de te savoir à nouveau dans l'amitié de Dieu. Alors sa mère, Mercedes, est anéantie. C'est donc pour elle que sa petite souffre, pour elle qu'elle meurt. Elle craignait qu'elle lui fasse des reproches, mais Laura sait agir tout autrement. Elle ne sait pas faire de reproches, elle sait seulement aimer. Il est vérité que l'amour suggère sont parfois plus terribles et douloureuses, souvent hein, que des reproches. Et elle lui dit, « Laura, ma petite Laura, je te le promets. Je le promets au Seigneur et à toi. Oh mon Dieu, pardonne-moi. » Et là, la mère et la fille s'embrassent dans un élan de profonde communion. Je sais que des gens trouvent ça quétaine. Et mais moi, je trouve ça très beau. On dira que ça ferait un beau film de troisième ordre. Moi, je dis que ça ferait un très beau film si c'était bien fait. L'ombre disparaît des yeux de Laura. Une grande paix l'envahit. Maintenant, je meurs heureuse. Oh, merci, mon Jésus. Et ce sont des paroles de lumière, une lumière qui demeure. C'était le 22 janvier 1904. Laura n'a pas encore 13 ans. C'est le plein été à ce moment-là, au mois de janvier, là-bas. c'est sous l'équateur. Et dans les champs, dans les prés, il y a des jardins, les fleurs s'épanouissent par milliers. Le lendemain, près du cercueil de Laura, Mercedes, sa mère, accomplit sa promesse. Elle rencontre à nouveau le Seigneur dans les sacrements de réconciliation, où elle se confesse. Et elle reçoit enfin l'Eucharistie. Pour elle aussi, c'est le début d'une nouvelle vie. Laura, c'est au ciel. Et sa mère, c'est dans cette vie éternelle qui commence dès ici-bas, hein, qui nous est donnée par la réconciliation, par l'Eucharistie, par la vie du Christ en nous, par la présence de Dieu et le don de soi-même aux autres. C'est ça le bonheur ici-bas. Oui, Laura, oui. Reste près de moi. Il n'est pas facile de casser la chaîne qui la lie à Manuel Mora. Cela veut dire vivre à nouveau la solitude, l'incertitude du lendemain, la pauvreté, la persécution. Alors Mercedes résiste, elle se sent forte et décidée. Mais Manuel Mora ne s'avoue pas vaincu. Fou de rage, il vient la chercher pour la ramener à Quilquicué, son domaine. Maintenant, la Sainte Nitouche n'est plus là pour l'ennuyer. Mais Mercedes s'enfuira. Elle traversera à nouveau les Andes. Mais oui, elle est réconciliée avec Dieu, puis elle décide de s'enfuir au Chili, laissant la petite Amanda au collège des sœurs salésiennes. Mais peu de temps après, elle revient pour ne pas laisser Amanda seule. Elle s'établit à Junin, finalement, et protégée par des amis sûrs, elle vit de son travail. Par la mort de cet homme, Manuel Mora, elle peut enfin mener une vie tranquille. Et 2 ans plus tard, la petite Amanda, à 12 ans, se marie. Quelques années plus tard, la mère, Mercedes, retourne au Chili, bientôt suivie par Amanda et sa famille. Je vous signale qu'elle a été béatifiée le 3 septembre 1988 à Colle Don Bosco, en Italie, à la mémoire des religieuses qui l'avaient formée, ses sœurs salésiennes. C'était l'année du centenaire de la mort de Saint Jean Bosco. Et c'est pour ça que le pape a déclaré bienheureuse la petite fille, grâce à laquelle nous avons un nouveau modèle, un modèle remarquable, courageux, intelligent. Parce que si elle a perdu son père, elle a su comprendre profondément sa mère. Même si sa mère avait ce qu'on appelle une alliance irrégulière, hein, à un homme plutôt cruel, féroce, qui l'avait rendue malheureuse, elle a su comprendre sa mère. Et les sœurs lui ont pu lui donner un supplément d'âme. Et la communion et le sacrement de la réconciliation, la confession comme on disait autrefois, ont su allumer chez elle un amour pour Jésus plus courageux que tout. Et on peut se rendre compte que le dernier jour de sa vie, elle est arrivée à donner à sa mère ce courage, cette force qui l'a transformée, l'a libérée d'un esclavage effroyable. Elle a offert sa vie, la petite, mais pensons aussi au Père Pio dont je vous ai parlé longuement. Pensons à beaucoup de saints qui ont offert leur vie comme ça. Le Père Pio était stigmatisé. Pourquoi stigmatisé? C'est toujours le mystère. J'ai essayé de vous expliquer qu'à travers le mystère de la souffrance, doit régner dans nos cœurs l'amour. Et c'est à condition d'aimer que notre souffrance est transformante. Et notre souffrance en elle-même, Dieu ne la veut pas. Dieu veut notre amour, notre compréhension, la totalité de notre sincérité. C'est tout, rien d'autre. Je lisais tout à l'heure un très beau texte sur toutes sortes de choses dans un livre intitulé « Les faux mystiques chrétiens » de Marie-Agnès Vallard-Rossi. Et quelle est l'attitude de l'Église devant les faux mystiques? C'est évidemment la fermeture de ces choses-là. La foule peut maintenir et dire non, 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 non. La seule attitude, c'est de s'incliner. Il y a des petits centres de San Damiano, puis toutes sortes de choses comme ça, avec des prophètes au cœur sec, ou à l'âme qui plane et qui quitte l'Église pour en créer une autre parfois. Pourtant, l'unité de l'Église demeure essentielle, fondamentale. On la prie, on prie pour ça durant la messe. On la souhaite avec Jésus qui l'a souhaité, soyez un, soyez un, soyez unis, il l'a répété. Ça nous brise le cœur à nous, catholiques, de savoir que Luther, qui est parti à l'extérieur, alors que François, lui, Saint François d'Assise, a lutté à l'intérieur, parce que il a cru mieux se donner pleinement en sacrifice comme le Christ à l'intérieur. Il est resté avec son peuple. Comme le Christ est resté avec son peuple qui le désavouait, il faut peut-être revenir à la solitude et à la détresse de la croix pour ne pas en arriver à nous séparer de cette Église. Il faut savoir souffrir et grandir. Il faut faire comme le père Chenu, le père Congar, le père de Lubac, tous ces hommes qui ont été condamnés par l'Église à un moment donné, mais qui ont su rester unis et devenir des piliers du dernier concile. Nous parlerons d'ailleurs cette semaine à l'occasion, surtout jeudi, à l'occasion de la conversion de saint Paul, du grand souhait que tous les chrétiens, je pense, de cœur, ont au fond d'eux-mêmes, le souhait de cette unité profonde entre orthodoxes, catholiques, protestants, anglicans. Nous souhaitons tous cette unité. Nous devons prier cette semaine. C'est la semaine de l'unité. Nous devons vraiment travailler à cette fin. Et les prières, d'ailleurs, à la messe de dimanche, étaient très belles pour cette unité. Très, très, très belles. Qu'il suffise de rappeler la belle oraison du début de la messe. Très belle. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui fais l'unité de ce que tu rassembles, regarde avec amour l'Église de ton Fils. Nous te prions d'unir dans la totalité de la foi et par le lien de la charité tous les hommes qu'un seul baptême a consacrés. Nous te le demandons, ô Père, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit-Saint pour les siècles des siècles. Amen. Car tous les chrétiens ont reçu le même baptême. C'est ce qui nous unit profondément.